La nuit de la Saint-Sylvain par Madeleine Lay. Première cassette. Deuxième face. Page 41. Chapitre 4. La sphère magique. Jean des Brûlots prit une clé attachée dans son pourpoint par une chaînette et ouvrit la porte d'un réduit obscur. Barbara entra, et lorsque ses yeux furent habitués à l'obscurité, elle aperçut une sphère de cristal qui rayonnait vaguement, comme si elle avait été la source d'une secrète lumière. Elle était supportée par trois enfants agenouillés qui la tenaient sur leurs épaules. Chut, dit Jean des Brûlots, ils dorment. Oh, fit Barbara à voix basse. Qui sont ces jolis petits enfants? Celle-ci, qui dort si profondément, c'est Mémoire. Il suffit d'un rien pour l'éveiller. Je la laisse dormir très longtemps. Elle est parfois si fatiguée de porter le miroir du monde. Et le petit garçon qui ouvre un peu ses paupières, qui est-ce? Celui-là, c'est le rêve. Et celle qui est si jolie, c'est Imagination. Est-ce qu'ils vont continuer à dormir? Non, tu vas les éveiller en soufflant sur eux. Oh, les pauvres petits, je ne voudrais pas leur faire peur. Rassure-toi, ils ne s'effrayent pas si vite. Éveille Mémoire d'abord. Et regarde bien ce qu'elle te montrera. Dès qu'elle sentit le souffle de Barbara dans ses cheveux, l'enfant que Jean des Brûlots appelait Mémoire ouvrit les yeux et attacha ses regards sur le miroir du monde. Ils y firent naître des formes et des couleurs. Et Barbara, les mains jointes, vit bouger des paysages dans les cristals transparents. Elle apercevait l'extrême horizon et en même temps, elle découvrait les plus infimes détails, jusqu'aux nervures des feuilles, jusqu'aux étamines qui tremblent aux barbes des épis. Elle vit des champs et des prairies, et un large fleuve qui coulait entre deux forêts de roseaux. Elle vit la mer et les dunes de sable, des chapelles à des carrefours, sous les ormes qui se balancent, un chemin dans un bois de sapin, où les sassindelles vertes sautaient dans le sable chaud, en faisant briller l'or de leurs ailes. Où était tout cela? Ah oui, elle se souvient. Que c'était beau. Ce temps-là, elle n'était pas paralysée. Les étés n'avaient pas de pluie et tous les jours étaient sans larmes. Elle vit un château dans un pays plein d'étangs et de sources, au milieu des arbres verts. Une pièce d'eau reflétait les pignons et les tourelles et l'eau était si tranquille qu'on pouvait jouer à avoir deux châteaux, l'un à l'envers, l'autre à l'endroit. Des oiseaux chantaient dans les peupliers. Où était-ce tout cela? Ah oui, elle se souvenait, c'était à Elewit. Le domaine de son enfance. Elle voyait sa mère en robe de velours rouge qui jetait du pain au cygne. Son père s'appuyait à la balustrade du pont en souriant. Le soir venait. Le paysage s'endormait dans une vapeur d'or. Les paysans rentraient sur la route en poussant les bêtes luisantes et fortes. Barbara se voyait elle-même, toute petite, avec sa robe longue et rigide, son béguin brodé de fleurettes, ses bras nus si ronds, et la chaîne qu'elle portait encore au poignet, où pendait un cœur de grenat. Comme l'arrosoir était lourd à Eloui, autant des frères, autant des dahlias et des prunes qu'il faisait beau. Le soir était clair, on apercevait la cathédrale de Malines. Ensuite, elle vit un cortège. La ville était pavoisée, pleine de monde. Les gens de tous les métiers et de toutes les provinces étaient venus pour assister à la fête. Chacun avait revêtu ses plus beaux habits. Il y avait des années de cela, mais comment avait-elle pu l'oublier? Tous les petits enfants au balcon, les chars qui passaient sous les fenêtres, des jeunes filles avec des ailes d'ange se tenaient aux quatre coins, immobiles comme des figures de cire. Était-elle bien vivante? Les écharpes flottaient dans la brise, les couronnes brillaient au soleil. Tant de personnes en costume ancien étaient assises à ce balcon où bougeaient des draperies. Je les connais, pensait Barbara. je les ai déjà vus. Une douce vieille dame lui prenait la main, la regardait d'un air tendre et douloureux. Grand-mère, oh, pourquoi ces larmes en ce jour de fête? Paix à la terre et gloire aux cieux, chantent les petits-enfants dans les rues. Grand-mère, c'est toi! Cependant, mémoire penche la tête et ferme les yeux. Oh, regardez, elle va dormir, dit Barbara, et nous ne verrons plus rien. Vous, messire, à votre tour, voulez-vous souffler? Non, dit-il, non. Je ne veux pas ranimer la mémoire, car ma vie n'a pas toujours été belle. Ça ne fait rien, dit Barbara, Dieu vous le pardonnera. Ne soufflez pas sur mémoire, soufflez sur le petit garçon. Non, dit Jean des Brûlots, fais-le toi-même. Barbara souffla dans les cheveux du rêve. L'enfant s'étira doucement, écartant son petit vêtement en peau de panthère. Il ne s'éveilla pas tout à fait, mais il appuya sa joue contre la sphère de cristal. Et ce que Barbara vit alors, elle ne l'avait jamais vu. Oh non, elle en était bien sûre. Peut-être lui avait-on lu jadis une histoire où l'on parlait de ce beau paysage. Était-ce le nouveau monde ? Elle voyait une vallée délicieuse, un véritable paradis. À l'horizon, des montagnes bleues couvertes de forêts. Au fond, une rivière qui s'échappait vers la plaine en passant sous des ponts de lianes. Une pirogue glissait sur l'eau et des hommes cuivrés, couronnés de plumes, tiraient des flèches sur les oiseaux de la rive. Le paysage changeait dans la sphère de cristal. C'était maintenant d'immenses solitudes où paissaient des troupeaux de chevaux. Ces fiers animaux fuyaient au moindre bruit en faisant flotter leurs longues crinières. Ils luttaient de vitesse, et puis tout à coup s'arrêtaient immobiles, le cou tendu, les oreilles dressées, les naseaux ouverts, interrogeant de leurs yeux pleins d'innocence et d'ardeur tous les points de l'horizon. Et la mer. Barbara voyait un navire sur la mer. Elle le suivait de tout près, comme si elle avait pu voler. C'était un trois-mâts carré qui tanguait violemment et trempait chaque fois son beau pré en soulevant une gerbe d'écume. Tout le monde s'agitait à bord. Il n'y avait que des signes de désordre et de lassitude. Le pont était mouillé. Elle n'avait gardé que très peu de voiles. Bientôt, elle en comprit la raison. Une tempête venait de passer et tous les matelots s'employaient à réparer les avaries causées par l'ouragan. C'est alors qu'on vit arriver dans le ciel un nuage noir qui fonça sur le bateau et qui l'enveloppa. C'étaient des milliers d'oiseaux. Ils recouvrirent complètement le pont et pénétrèrent à l'intérieur du bâtiment par tous les sabords. Oh, les pauvres petits, dit-elle, ils tombent de fatigue. En effet, les oiseaux paraissaient à bout de force. Comme les marins, ils avaient dû être pendant des heures emportés par le cyclone et le bateau était pour eux le seul point sur la vaste mer où ils pussent trouver un refuge. Barbara les connaissait bien. Il y avait là tout ce qu'on pouvait rêver comme oiseaux de la terre. Grives, tourterelles, loriots, fauvettes, hirondelles, mais surtout des canaris et des merles bleus. Les matelots ramassaient sur le pont les plus fatigués, qui se laissaient prendre sans montrer nulle crainte. Tous les agrès et tout ce qui pouvait servir de perchoir à bord étaient couverts d'oiseaux. Ils y restèrent longtemps. Les hommes demeuraient assis là où le peuple désert leur laissait un peu de place. On voyait qu'ils pensaient au printemps de leur pays. « Messire, dit Barbara tout émue, l'histoire de ces oiseaux, un capitaine l'a racontée à mon père l'an dernier. J'étais assise dans l'atelier. J'écoutais, je... »« Regarde, petite fille, il vient encore quelque chose. » Oh, dit Barbara, c'est le poète qui dort dans le pavillon de porcelaine. Je ne sais pas dans quel pays c'est. Je ne sais plus qui m'en a parlé. Regardez, il y a des pins noirs sur les rochers et les vagues sont toutes frisées à leur crête. Comme c'est joli. On dirait une image peinte sur de la soie. On voyait des paysans avec des chapeaux jaunes qui passaient un guet en retroussant leurs longues robes. Dans un bois de pins, un empereur à cheval rencontrait une déesse qui se cachait le visage avec un éventail d'or et tout au bord de la mer, sur un rocher battu par les vagues, un enfant laissait filer dans le ciel un cerf-volant de parchemin rond et blanc comme la lune. Mes rêves laissa rouler sa tête sur son épaule et la sphère de cristal demeura vite du barge. Messire capitaine, s'écria Barbara, me permettez-vous de souffler sur l'imagination aussi? Certainement. Mon Dieu, dit-elle en joignant les mains, ne vaudrait-il pas mieux la laisser dormir? Mais elle souffla. Alors, l'imagination étira ses bras gracieux et maigres. Elle entr'ouvrit les yeux et appuya sa main sur le globe de cristal, en laissant errer ses regards au-delà de tout ce qui l'entourait. Et l'air se mit à vibrer, des sons délicieux à retentir. C'était le bruit du vent dans les voiles, le murmure de la brise sur les îles où personne n'est allé. La nuit profonde, apparut un astre lointain qui brillait, éclairé comme pour une fête où nul ne pouvait se rendre. Les étoiles dansaient dans l'infini et semaient autour d'elles une poussière d'or. Et puis, ce fut l'aube. Barbara vit descendre par des sentiers de lumière des enfants ravissants qui semblaient ignorer le rire aussi bien que les larmes. Leurs pieds effleuraient les nuages, leurs mains se tendaient vers elles, des regards cherchaient les siens avec intelligence et tendresse et semblaient dire « C'est toi, nous nous reverrons dans les jardins du ciel. » « Ne pleure pas, petite fille, » disait Jean des Brûlots, qui était revenu avec Barbara dans sa chambre. Ne pleure pas. Tout ce que tu as vu, tu le reverras l'année prochaine. Allons, adieu. L'aube va venir. Remets tes patins et rentre vite. Essaye d'être heureuse toute l'année en songeant à la nuit de la Saint-Sylvain. Dis-toi bien que ce que tu as vu, personne au monde ne peut le voir. Ils montèrent sur le pont. Le froid était vif, les matelots n'étaient pas réveillés. Barbara ne pensa plus qu'à ses parents. « Oh mon Dieu, Jésus, pria-t-elle, laissez-moi rentrer avant d'éteindre les étoiles. »« Rassure-toi, petite, dit Jean des Brûlots. La ville n'est pas loin, va vite. Adieu, à l'année prochaine. » Elle s'élança sur la glace. Chapitre 5, l'adieu au rêve. La nuit de Noël avait été claire et froide et le printemps fut tôt cette année-là. Le dimanche avant Pâques, Eudocus Daes porta sa petite fille sur les berges hors de la ville afin qu'elle pût voir la campagne reverdie. « Père, dit-elle, déposez-moi dans l'herbe. Oui, il y a si longtemps. Comme tout est joli. Regardez, il y a des pâquerettes roses. Et quand viendront les cigognes? Oui, mettez-moi sur votre manteau. Vous pouvez faire une petite promenade. Je resterai ici. Les enfants viendront me parler. » Eudocus Daes alla se promener au bord de l'eau. Il se retournait souvent pour regarder sa Barbara, sa Baptiste, qui devenait de plus en plus petite à mesure qu'il s'éloignait. Parfois, il lui faisait un signe de la main. Une fillette quitta une ronde pour venir s'asseoir, tout essoufflée. Elle arrangea ses jupes comme une dame.
Oh, « Oh, Batidas, te voilà, bonjour. Tu as une robe rose pour le printemps? Comme tu es jolie. Tu ne sais pas, écoute. Le soir de la Saint-Sylvain, nous avons patiné sur le fleuve avec une petite fille qui n'était pas de la ville. Elle te ressemblait exactement. Nous avons cru que c'était toi et que tu étais guérie. Elle avait une si belle robe de velours avec de la fourrure d'oiseau. Elle est partie et nous ne l'avons plus revue. « Ah, mon Dieu, comme nous nous sommes amusés ce soir-là. Barbara, chérie, c'est dommage que tu sois toujours malade. Sinon, tu pourrais jouer avec nous au chat perché, ou bien je suis le roi du château. Tu aimerais, dis. Il faut que je m'en aille, parce qu'il m'appelle. Au revoir. »
Barbara baissa la tête pour cacher ses yeux et ses lèvres. Son cœur était plein d'amertume. C'était donc ainsi. Il fallait à chaque instant rentrer dans la vie et souffrir, jusqu'à l'heure de la mort. Ce fut exactement comme l'année précédente. Elle vit venir le musicien ambulant, vêtu de jaune, suivi d'une bande d'enfants. Il reprit sa musique, jolie et bizarre. Lorsque les enfants se furent dispersés, après lui avoir donné leur sou, il s'assit près d'elle et la regarda avec un air d'intérêt et de compassion. « Eh bien, petite fille, demanda-t-il, tu n'es pas heureuse ?»«
Non,
dit Barbara en retenant ses larmes. C'était pourtant beau la nuit de la Saint-Sylvain.
« Oh oui !»«
Et l'an prochain, tout recommencera. »«
Oh, monsieur, attendre toute l'année, c'est une bien longue patience pour quelques instants de bonheur. »«
Tu souhaiterais donc tant redevenir pareil aux autres enfants ?»«
Oh oui !»«
Mais alors, tu serais différent. Tu irais jouer et crier avec eux, au lieu de regarder les belles choses avec toute la patience qui est dans ton petit cœur. » Et si tu retournais sur le fleuve la nuit de la Saint-Sylvain, tu ne retrouverais pas le navire.
Est-ce vrai? Je ne reverrai jamais le navire?
Non, ce serait impossible.
Écoute, si tu le souhaites, je peux te guérir. Mais tu ne verras plus rien de merveilleux. Choisis.
Il faut absolument choisir. Vous ne pourriez pas m'accorder les deux choses à la fois?
Non, il faut choisir. Dépêche-toi.
« Oh, dit-elle en éclatant en sanglots, je choisis de devenir pareil aux autres enfants, et pour toujours !»
À l'instant même, il y eut un léger bruit dans l'air, un bruit de fusée.
Pshut !
L'homme jaune avait disparu. Barbara Das se leva toute droite et marcha sur le pré à la rencontre de son frère. Pendant 8 jours, la ville entière ne parla que de ce miracle.
Une vieille femme qui tenait une boutique sur la Grand Place disait en levant son bâton
« Je sais, moi, comment Batidas a guéri. C'est moi qui ai donné le remède à ses parents. J'ai dit à sa mère de la mettre tous les soirs nue devant le feu et de lui frotter le dos et les jambes avec un morceau de lard en priant Sainte Barbe. Et voilà !»«
On ne m'a jamais frotté avec du lard !» s'écriait Barbara en haussant les épaules. Et puis elle riait comme une petite folle et grimpait avec les autres enfants sur l'étal de la marchande de tulipes. Elle ramassait une feuille de chou et se la mettait sur la tête. Ah, mesdames, c'était la semaine des tulipes et des jacinthes. Sur le marché, on pouvait se réjouir de toutes ces belles couleurs et se nourrir de parfums. À la fin, on en avait mal au cœur.
Voici maman qui m'appelle, disait Barbara. Je rentre.
Ah, quelle journée!
Eudocus et Mathilde Das étaient devenus très heureux. Ils avaient maintenant une belle petite fille, aux jambes souples, qui descendait les escaliers comme une chatte, qui courait en criant de joie sur les berges des fortifications, avec tous les autres enfants de la ville. Souvent, ils s'étonnaient de lui trouver tant de vivacité. Mais elle restera douce et bonne, songeait-il, parce que rien ne change notre cœur. On passa toute l'année dans les plaisirs. Eudocus peignit un grand portrait de sa petite Barbara, un merveilleux portrait où l'on pouvait la voir debout, dans une robe sombre et brillante comme la feuille de laurier, avec une collerette de dentelle, debout une tulipe à la main, les joues toutes roses, les lèvres entrouvertes, au milieu d'une pelouse où gambadaient des agneaux. Elle exigea que son papa peignît au fond du tableau un musicien vêtu de jaune avec son chapeau à sonnette. « Pourquoi ?» demandait Eudocus.
« Cher papa, disait-elle, faites-le, je vous en prie. »
Vous l'avez vu, ce bonhomme, qui jouait de la musique sur les fortifications avant Pâques. Vous vous souvenez de lui ?»«
Certainement, je l'ai vu, disait Eudocus. Je me souviens fort bien. Je le peindrai ici dans le coin si cela peut te faire plaisir, Barbara. »
Et il fit comme il avait dit. En été, ils entreprirent des promenades lointaines. Dans une carriole verte et jaune, ils s'en allèrent jusqu'à une de leurs fermes qui se trouvait dans la Flandre orientale. On avait tué des porcs. Il y avait 7 tables et le repas dura jusqu'au soir. Et puis, un matin de juillet, Eudocus Das et sa fille prirent un bateau pour aller jusqu'en Zélande, ce qui veut dire pays de la mer. Pour la première fois, Barbara quitta sa ville et sa province pour faire un vrai voyage. Elle vit disparaître les roseaux du fleuve, les campagnes de sa patrie et leurs villages sombres, pour arriver dans un pays plus riant, où les villes étaient liées entre elles par tout un réseau de canaux pleins d'eau jusqu'au bord. De tous côtés, il y avait de l'eau qui reflétait le ciel bleu. Le vent faisait tourner des centaines de moulins et gonflait les jupes des femmes qui se promenaient sur les villes. Le soir, il fallait arriver tout près des villes pour apercevoir leurs clochers perdus dans une brume bleue. Plus loin, disait Judocus en montrant la mer, beaucoup plus loin, c'est l'océan. Et de l'autre côté de l'océan, il y a le Nouveau Monde. Et plus loin encore, c'est l'Asie.
Je sais, disait Barbara. Elle pensait au navire de Jean des Bruneaux et au miroir magique.
En juillet, les jours raccourcissent déjà. La lourde lune jaune des soirs d'été s'élevait avec peine au-dessus des prairies des fortifications, et les très petits enfants croyaient pouvoir la prendre en s'avançant dans la campagne. Les seringas soupiraient leur parfum par-dessus les murs des jardins cachés, et chacun se souvenait dans son cœur d'un été semblable, d'un bel été qui ne reviendrait plus. Les baraques de la foire s'allumèrent sur la place. Des acrobates au visage impassible tournaient doucement autour de leur barre comme s'ils volaient en rêve. Un petit ours noir, attaché par une chaîne, s'agitait dans sa maison de miroir en dispersant la sueur, et des singes vêtus de costumes verts et rouges attelaient un carrosse tiré par des caniches. Le sifflet du carrousel retentissait, et l'on pouvait partir pour un voyage enivrant qui ne coûtait qu'un liard et qui durait le temps d'une chanson. Pendant les mois de septembre et d'octobre, ils retournèrent habiter à Hélénie. L'hiver les surprit au milieu des travaux et des plaisirs de la campagne. La première neige tomba sur le domaine comme il s'y trouvait encore. Sous chaque ronce, il y avait une fragile grotte de neige et les traces des lièvres et des oiseaux s'entrecroisaient sur les pelouses. « Il est temps de rentrer en ville, » disait Mathilde Dars. Lorsque les fêtes de Noël et du Nouvel An furent passées, il se mit à geler. Barbara eut quelque peine à se tenir sur ses patins. « Je ne sais plus patiner, j'ai oublié !» s'écriait-elle en agitant les bras pour garder son équilibre. « Allons, il faut te dépêcher d'apprendre !» disaient les autres enfants. « La Saint-Sylvain approche et tu viendras à la fête sur la glace avec nous !» Le soir de la Saint-Sylvain, dans toutes les maisons de la ville, on fit dîner les enfants plus tôt que les petits. Et puis, on les laissa partir au patinage en bande joyeuse. Le ciel n'était pas très pur et il ne gelait plus guère. Maintenant, Barbara jouait sur la glace avec ses petits amis. Ils s'amusaient à faire des cercles et des figures, portant leurs lampions allumés. La lune sortit des nuages et fit briller tous les patins. « C'est une lune de pluie, » dit une dame qui arrivait en traîneau. Barbara se sentait triste. Elle sut bientôt pourquoi. Il y venait des souvenirs de l'année précédente et un fol espoir. Elle comprit que dans le secret de son cœur, elle avait toujours espéré retrouver le navire, malgré ce que lui avait prédit l'homme au costume jaune. Jean des Bruneaux était peut-être revenu, pourquoi n'irait-elle pas voir au tournant du fleuve? Certainement, il ne l'avait pas oublié.
Elle quitta les enfants et s'élança rapidement dans la direction du nord. La lune était de nouveau voilée. Il commençait à pleuvoir. Après la ligne de peupliers de Zéle, la glace était si grenue qu'il devenait impossible de patiner. Barbara se dirigea vers la digue, y grimpa, la passa clopin-clopant et redescendit de l'autre côté dans le chenal qui se trouve en contrebas du fleuve. Cette piste lui parut moins mauvaise. Elle avançait depuis longtemps déjà lorsqu'elle aperçut deux pêcheurs qui venaient vers la ville en faisant de longues enjambées, leur panier de poissons sur la tête. « La glace travaille !» crièrent-ils en passant. « Le printemps est proche, petite fille. Prends garde, tu vas te mouiller les jambes. » À travers l'épaisseur de la digue, on entendait des coups sourds, pareils à des éclatements lointains. Même dans le chenal, la glace se recouvrait d'eau. Barbara comprit que c'était la débâcle qui commençait. Alors elle prit peur et se dirigea vers le bord. Soulagée d'être sur la terre ferme, elle enleva ses patins, grimpa sur le talus de la berge et avança dans la neige. Peut-être, pensait-elle, peut-être que le navire sera là encore. Elle allait sur le chemin de halage, pleine de force et d'espoir. Mais elle vit que la glace avait craqué partout, sous la pression de la marée. Le givre fondait au bord de l'eau noire où des glaçons flottaient, entraînés par le courant. Et le navire avait disparu. Il avait quitté les eaux délivrées pour s'en retourner au pays de l'imagination et du rêve.
Fin de la deuxième piste de cette cassette unique, page 69. La nuit de la Saint-Sylvain par Madeleine Lay.